C'est quoi ça, le baby clash ?
Baby clash. C'est pas si facile que ça, parce que les nuits sont entrecoupées, parce qu'on est très fatigué, du coup, on prend moins soin de soi et du coup de son couple, oui.
C'est Mathieu Noël et on a 20 minutes pour tout comprendre au phénomène du baby clash, quand les parents se déchirent à la naissance de bébé. À mes côtés, Manon Mariani, Quentin Lui et Cyril Lacarrière. Et bonjour Anna Roy.
Bonjour.
Merci d'être avec nous sur Inter cet après-midi. Anna, vous êtes sage-femme, chroniqueuse dans l'émission La Maison des Maternelles. Vous êtes à l'origine du podcast Sage Meuf et on vous doit donc le livre, que dis-je, la Bible des jeunes parents, Baby Clash, devenir parent sans s'étriper, publié en janvier, trop tard donc pour Cyril et moi, chez Larousse. Qu'est-ce qui craque en premier dans un couple lors de l'arrivée d'un enfant? Que nos auditeurs soient un peu au courant.
L'énergie. En fait, ce qui tue les jeunes parents, c'est le manque d'énergie et l'inéquité dans la répartition des tâches. Mais en tout cas, la fatigue, ça tue les gens. C'est vrai, hein, ça tue les gens médicalement, sur le plan de leur santé physique et mentale. Et c'est ça qui va ruiner leur couple.
Alors Cyril, vous qui êtes particulièrement bougon aujourd'hui, d'où ça sort le baby clash ?
J'en sais rien.
Ah ouais, ça c'est...
Voilà, de toujours en fait. J'imagine que même les homo sapiens devaient s'engueuler à cause de leurs gosses, donc bon. Mais comme je ne peux pas laisser les lacarzous sans leur dose de DCS,
mais c'est pas vrai.
J'ai eu une idée. Ou en tout cas, notre attaché de production, oui, Amel Kadhi, a eu une idée pour moi. Comment le baby clash est aussi devenu un sujet culturel ? Dans le cinéma, on parle souvent des gamins, parfois parce qu'on a oublié un gamin à la maison avant de prendre un avion, mais aussi parce que ce gamin se retrouve mêlé aux histoires du couple. Un exemple récent, Marriage Story sur Netflix. Adam Driver et Scarlett Johansson ne se supportent plus. Ils ont eu un enfant, il s'appelle Henry, et heureusement qu'il est là.
T'es devenu un vrai connard !
Tous les jours, je me réveille en espérant que tu sois morte. Et si on pouvait me garantir qu'Henri s'en sortirait, je prierais pour que tu tombes malade, qu'une voiture te renverse et que tu meurs.
C'est quand même dingue, comme même un film comme Marriage Story, doublé en français, ça ressemble à Plus belle la vie, quoi. Enfin,
oui,
c'est quand même hallucinant.
On fait ce qu'on peut, on fait ce qu'on peut. Dans ce cas, c'est le lien ineffaçable que représente l'enfant qui exacerbe les tensions. Les deux protagonistes ne se sentent piégés, en fait, parce qu'ils ont eu un enfant ensemble. Plus loin en arrière, 1970, Domicile conjugal de François Truffaut.
Pour l'instant, tout est calme au domicile conjugal.
Du moins, on pourrait le croire.
En fait, ce n'est qu'une impression.
Fausse, mais alors complètement fausse.
Alphonse sera un grand écrivain. Tu sais ce que je ferai de lui plus tard, Alphonse ?
Regarde, ton père va sûrement aller au water. Il est en train de s'équiper comme pour une expédition pour les Victor.
On s'approprie l'enfant pour imaginer sa propre carrière et se moquer de son père à travers lui. Et puis, il y a le ras-le-bol. Ras-le-bol de s'occuper des mômes, scène géniale du film Le Prénom avec la regrettée Valérie Benguigui.
Ah, les enfants. Eh ben tiens, parlons-en des enfants. Qui m'a supplié d'en avoir ? Parce que des enfants, il n'y a rien de plus beau ? Mais tu t'en occupes jamais ? Enfin, si, je suis vache. Le dimanche soir, parfois, ça te prend, là. Tu joues un quart d'heure avec eux. Tu les énerves bien en faisant le fou, là. Juste avant qu'ils aillent se coucher. Et après, tu me les laisses sur les bras, surexcités, trempés de sueur, avec les cartables à préparer, les histoires à raconter, les doudous à retrouver, les pipis, les cauchemars. Et toi, tu vas t'enfermer dans ton bureau, parce que bon, quand même, faut pas déconner, les chiards, ça va 5 minutes.
Les chiards, ça va 5 minutes. Tous les parents doivent se le dire de temps en temps, pas vrai, Mathieu, ça va 5 minutes.
Je ne prononcerai pas qu'en présence de mon avocat.
D'ailleurs, le sujet de la charge mentale revient souvent dans les comédies à la française. Autre exemple, 10 jours sans maman de Franck Dubosc.
Moi, c'est les enfants, tout le temps, les enfants.
Ça va, enfin, tu les as déposés à l'école, les enfants, t'as toute la journée pour t'occuper de toi, ça va.
T'es sérieux là ?
Je donnerais n'importe quoi pour être à ta place.
Et il va être à sa place, il va réaliser Calamba, et voilà, fin de l'histoire. Et puis parfois, évidemment, ça finit mal, ça finit au tribunal. Un des grands films sur la parentalité, Kramer contre Kramer.
Ouais, maman.
Bah, elle est plus là. Alors, les parents se déchirent au tribunal.
Mon petit garçon n'a que 7 ans, il a besoin de moi. Je ne dis pas qu'il n'a pas besoin de son père aussi, mais je crois qu'il a plus besoin de moi.
Meryl Streep en version française. Et grâce à Quentin, lui, j'ai appris quelque chose en préparant ce D'où ça sort, que ce film avait en partie inspiré une chanson.
Oh, je vais tout casser.
Ah, un bon balade, ça marche toujours. Hein.
Vous êtes sûr de vos sources ?
Certains.
Sur le lien ?
On va vérifier.
Très bien.
Chérie FM.
Source fiable, hein.
Ah oui.
Alors, puisque le baby clash, c'est une vieille histoire, comment faire en sorte que ça clash moins ? C'est ce qu'on va voir durant une heure.
Anna Roy, il y a deux manières d'envisager ce doux assort. Soit se dire que Cyril n'a absolument pas fait ce pourquoi il est grassement payé, soit considérer qu'une fois de plus, c'est un de ces fameux DCS coup de génie. Je pense évidemment pour cette option. Je vous précise que tout ça, c'est lui qui me l'a écrit, évidemment. Hein, parce que je ne pense pour aucune option, il a juste fait n'importe quoi. C'est vrai en revanche que de tout temps, il y a eu des baby clash, c'est juste qu'on en parle plus aujourd'hui qu'avant.
Oui, ça, je suis persuadée de dire que c'était mieux avant, cette espèce de discours qui revient.
C'est faux.
Bon, non, bien sûr. Et d'ailleurs, je suis en train d'interviewer des femmes qui ont entre 60 et 90 ans en ce moment, et je leur fais parler de leur postpartum, leur relation de couple et tout. Elles disent, mais c'était l'enfer, c'est exactement la même chose. Enfin, il n'y a aucune différence entre. Alors, peut-être que les gens. Mais je ne suis pas historienne, je ne suis pas sociologue. Donc, peut-être que, effectivement, ils étaient moins aidés, peut-être que les femmes étaient plus seules, peut-être que.
Ils en parlaient moins.
Oui, voilà. Moi, je pense que c'est surtout que les gens parlent, et qu'avant, ils n'en parlaient pas, c'est tout. Mais de toute façon, les gens n'en parlent toujours pas, parce que c'est hyper délicat de renvoyer une image de son couple qui est un peu moisie. Donc, un espèce de chape de plomb sur ce sujet. Mais même avant d'avoir des enfants, personne va dire putain, je supporte plus mon mec, j'en peux plus. Voilà. Donc tout le monde joue le rôle de non, mais ça va super, nous c'est trop bien, c'est l'éclate. Encore plus quand on a eu un enfant, parce qu'on n'a pas le droit de dire que là ça va pas, alors que tout devrait aller super bien.
Ah donc, alors ma deuxième question ne va pas, parce que j'allais vous demander est-ce que la baisse de la natalité en France, elle est liée au fait que, comme on parle.
La baisse.
Mais tout se mélange dans ma tête. Vous savez, c'est vendredi, vous savez, Cyril, soyez
gentil. C'est un lapsus.
Effectivement, c'était peut-être un lapsus, effectivement. J'appelle peut-être quelque chose de mes voeux, n'est-ce pas? Et donc, j'allais vous dire, cette baisse de la natalité en France, elle est peut-être liée au fait que, comme on parle plus du baby clash, même si on n'utilise pas toujours cette expression forcément, mais des problèmes, les problèmes postpartum, tous ces problèmes que peuvent rencontrer le couple, les gens se disent... en fait, faire un enfant, non. Pour vous, c'est
ça,
pas des souliers.
Je suis sûre que ça n'a rien à voir. C'est des problèmes macro beaucoup plus profonds, de sociétaux, etc. Mais ça n'a rien à voir. Au contraire, plus on parle, moi, il y a plein de femmes à qui j'ai raconté plein de choses et qui me disent, vous me donnez au contraire envie d'avoir des enfants. Qu'on cache la vérité, ça ne donne pas du tout envie d'avoir des enfants. Non, ça, je crois pas du tout à cette histoire-là. Au contraire, plus on parle aux gens, plus ils ont envie de faire des enfants. Parce qu'en fait, c'est assez drôle. En fait, les problèmes de parentalité, c'est parfois très chiant, mais c'est quand même assez drôle.
Ah oui, enfin, quand on est en plein dedans.
Non, mais si, au fond, si. On va en parler.
Vous êtes sage-femme, Anna, on l'a dit. Est-ce que maintenant vous repérez les couples pour qui la naissance d'un enfant va être difficile? Est-ce que vous arrivez à le détecter? Vous dites, eux, il va falloir qu'ils s'accrochent.
Non, pas toujours. Non. Souvent, je me fais avoir.
C'est surprenant.
Oui, je me fais toujours avoir. Je sais pas pourquoi, parce qu'en fait, il n'y a pas tellement de facteurs favorisants, non? Ouais. Non, je me fais souvent avoir.
C'est pas une question de milieu social ou quoi que
non,
ce soit?
Non, pas de milieu social, pas ils étaient en couple depuis 10 ans,
non
pas. Il y a un portrait type. Un couple robot qui non malheureusement non j'ai pas de point d'accroche.
Mais parce que ça dépend de l'enfant aussi.
Non, pas seulement, ça dépend en fait. Non mais des fois après il y a des gens dont je me dis oula, ça peut être compliqué, mais des fois je me trompe quoi, souvent.
Et pourquoi?
Je me trompe. Parce qu'ils sont déjà pas très
coordonnées,
déjà c'est assez compliqué. Et puis des fois, c'est vrai qu'il y en a qui font des enfants très 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 vite, ça peut être chouette, on est hyper amoureux, claque, on fait un enfant, puis on se réveille le lendemain, on se dit oh zut, pourquoi j'ai fait un enfant avec cette personne. Et ça arrive.
Sur la couverture de votre livre, il est écrit cette statistique troublante, 2 couples sur 3 vivent d'une crise à la naissance d'un enfant. Alors une crise, c'est pas forcément une séparation ni des objets qui volent dans la pièce. C'est quoi la crise de la parentalité?
C'est-à-dire, c'est on va dire que c'est une crise maturative, c'est une profonde déstabilisation du couple. En fait, chaque individu, en ayant un enfant, il devient quelqu'un d'autre. Et le couple, qui était uniquement amoureux, devient amoureux et parental. Et forcément, ça va frotter. Ça va frotter pour mille et une raisons. Ça peut frotter pour mille et une raisons. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y a une apparition massive de tâches domestiques, parentales. On se retrouve complètement écrasé. Il y a le manque de sommeil, il y a nos casseroles personnelles qui peuvent revenir. Il y a l'inéquité dans la répartition des tâches. Il y a mille et une raisons que ça pète. Et d'ailleurs, moi, au début, je voulais l'appeler Bienheureux Baby Clash, ce bouquin, pour dire que c'est pas forcément dramatique, c'est juste une phase profonde de déstabilisation. Vraiment, il faut pas confondre ça avec des problèmes plus graves, quoi.
Est-ce que c'est déjà un passage obligé après la naissance? Est-ce que ça arrive vraiment à tous les couples ou certains passent à travers?
Oui, pour moi, c'est l'immense majorité des couples. On dit 2/3, c'est un chiffre, en fait, on n'a pas de vrai chiffre scientifique, mais on va dire que 2/3, oui, la plupart des couples traversent ça et c'est pas grave.
Est-ce qu'il y a une moyenne de temps, en fait, on peut se dire que je sais pas, où c'est impossible à calculer parce que, en fonction du couple, en fonction du bébé, en fonction de ses nuits, etc. Mais on peut se dire, ça dure 1 an, 2 ans, 6 mois.
Alors, ceux qui ont le plus de chance, ça dure quelques mois, 2, 3, 4, 5 mois, le temps de se réajuster, de s'équilibrer. Et puis, il y en a d'autres pour qui ça va durer beaucoup plus longtemps, ouais. Ça peut durer plusieurs années.
En fonction du nombre d'enfants aussi, je suppose.
Voilà, aussi en fonction du nombre d'enfants. Le tout, c'est vraiment de se dire que quand on est en train de s'enliser dans un truc comme ça, il faut vraiment aller chercher de l'aide. Souvent, on a honte.
Mais vers qui? Vers vous?
Alors non, alors ça peut être une sage-femme, ça peut être un médecin, ça peut être un psychologue, un psychothérapeute, un thérapeute de couple, ça peut être un sexologue, ça peut être mille et une personnes. Le tout, c'est de trouver la bonne avec qui on s'entend bien, quoi. C'est tout.
Un professionnel? Pas les amis, quoi, pas la famille.
Alors, les amis, s'ils sont soutenants, mais des fois, les amitiés, on les connaît. C'est-à-dire
ils ont tous un avis.
Oui, ils ont tous un avis, et puis souvent, ils. Voilà. Ouais. Donc, non, plutôt des professionnels, ouais. Et puis des fois, faut. Alors, ce qui est difficile, c'est que des fois, il faut faire plusieurs professionnels pour trouver le bon qui va répondre à nos problématiques, à nous, et pas à quelqu'un. Enfin, voilà.
Ce qui est à la fois angoissant et rassurant quand je vous écoute, c'est qu'on ne peut pas savoir à l'avance, quand on est un couple qui décide de faire un enfant, comment ça va se passer. C'est-à-dire qu'on a beau s'aimer le plus fort, c'est pas forcément ça qui va faire que il y aura pas de baby clash, en fait.
Parce non.
Que, comme on devient chacun un autre individu, un
oui,
parent,
tout à fait.
On peut juste pas le savoir à l'avance.
Mais il y a quand même un truc qu'on peut préparer.
Qu'est-ce
c'est-à-dire
qu'on prépare,
que. Bah, c'est-à-dire que parents, ce serait le seul truc au monde, alors que c'est ce qu'il y a de plus exigeant au monde, qui devraient pas du tout se préparer. Moi, quand même, je dis aux gens, quand même, allez vous renseigner sur 2-3 trucs, sur mes histoires de 8 heures de travail supplémentaire, c'est quand même bien de le savoir à l'avance.
Ça veut dire quoi, 8 heures de travail par semaine ?
Non, par jour.
Hein ?
Un enfant de moins de 3 ans, c'est... mais ça, c'est des chercheuses, hein, sérieuses, hein, c'est pas moi qui le dis. C'est 3 heures de temps domestique, 3 heures de temps parental et 2 heures de charge mentale. Bon, bah, ces 8 heures, elles disparaissent. Enfin, on n'a pas une journée qui est allongée. Donc, en fait, vous voyez, il y a plein de choses comme ça à savoir. Moi, j'aurais aimé le savoir avant de devenir mère. Et c'est pour ça que je fais tout ce travail d'information auprès des parents, parce que je pense que c'est bien. Ça change tout de le savoir.
Et l'autre grand problème que beaucoup de couples rendent compte, c'est que justement, on n'a plus de vie de couple. On est tellement accaparé par tout ce qu'il faut faire, et aussi par l'amour de ce petit être merveilleux, que les rapports amoureux changent.
Oui, et ça, c'est vraiment un problème. C'est-à-dire que c'est un peu nul comme comparaison, mais on va se dire que le système solaire, le soleil, c'est le couple. Il faut vraiment se dire que le soleil, c'est le couple et que les enfants, ce sont des petites planètes qui gravitent autour.
Il ne faut pas mettre l'enfant trop
au centre. Non, il ne faut pas mettre l'enfant au centre et bien s'imaginer que l'enfant, on le fait pour qu'il s'en aille et qu'il nous quitte.
Ça, c'est très dur au début de penser à ça.
C'est très dur et en même temps, il faut y penser. C'est-à-dire que le couple, après, vous allez rester avec celui qui partage votre vie comme un crétin sur le canapé 15 ans plus tard. Donc, c'est vraiment bien d'investir cette relation et de pas complètement la désinvestir. Et donc, ça prend du temps, ça prend de l'énergie d'investir sa relation.
Ce que vous abordez dans le livre, il faut bien le dire, c'est pas des violences, des situations de violence ou d'abus. Hein. C'est juste, on est juste dans les problèmes que rencontre le couple après une naissance.
Ah non, alors là, je vais être très, très ferme là-dessus. C'est le baby clash, c'est guilleret.
Oui.
Dès qu'il y a de la violence, des trahisons graves, des problèmes psychiatriques, d'addiction sévère, etc., on n'est pas du tout dans le cadre du baby clash. D'ailleurs, il y a plein de gens qui ont lu mon bouquin et qui se sont dit, bah zut, nous, on n'est pas du tout dans le baby clash, c'est beaucoup plus grave, et qui ont pris la décision de se séparer.
Oui. Ah, voilà.
Ils se sont dit, oh. Et il y a des femmes, elles m'ont dit, mais Anna, j'ai réalisé à quel point mes problèmes à nous, ils étaient gravissimes. Voilà, et donc il faut pas hésiter à faire intervenir service de police, justice, association d'aide aux victimes, etc. Bien sûr, ça n'a rien à voir.
Et pour parler du baby clash, Quentin, vous êtes allé interroger les gens dans la rue.
J'ai arrêté toutes les poussettes yo-yo, trop pratique, elles passent sous les barrières de métro, évidemment. Les parents pressés aussi, j'aurais adoré répondre à votre petit micro-trottoir, mais bébé doit faire sa sieste. Bébé doit faire sa sieste, depuis quand les pronoms ont disparu quand on parle des nouveau-nés? Le bébé, mon bébé, non, je sais pas. Bébé tout court, pourquoi pas, cette grande confrérie de niaiserie
con de jeune.
Moi je suis contre, mais passons. Elle prend le temps de me répondre bonjour.
Bonjour.
C'est quoi votre prénom?
Jeanne.
Vous êtes avec qui?
Louison.
Et qui est contre vous, là, dans ce petit sac à dos, sac à dos.
Porte-bébé.
Porte-bébé,
oui.
Ah bon, désolé, on n'a pas tous le champ lexical non plus de la parentalité. Connaît-elle le thème du jour de l'émission?
Baby clash. Ça me fait penser au fait que, quelquefois, l'arrivée d'un bébé peut perturber le couple.
Ah, ouais. On va partager votre expérience.
C'est pas si facile que ça, parce que les nuits sont entrecoupées, parce qu'on est très fatigué, du coup, on prend moins soin de soi et du coup de son couple, oui.
Comment vous l'avez surmonté? Le premier, c'était quand?
Ah, c'était il y a 6 ans. On l'a plutôt bien surmonté, c'était assez serein, voilà. Et pour la deuxième, c'est un peu plus difficile, du coup.
Ah, ça, le deuxième, c'est fatal. Cyril marche sur ses cernes, Mathieu a vu des murs apparaître entre le bureau et le studio... Je demande à Jeanne comment on surmonte les conflits, comment on retrouve une sexualité aussi, quels conseils elle donnerait?
De s'écouter déjà soi-même, c'est peut-être un peu la clé pour pouvoir écouter l'autre et s'accorder du temps.
Et sur le conflit?
Sur le conflit, quelquefois peut-être de partir un petit peu, s'éloigner un peu, une heure ou deux, d'aller se promener quoi.
Ah ouais. L'air de dehors qu'on ramène à la maison fait du bien?
Oui.
Alors, petite annotation à ce dernier conseil. Avant de partir 2-3 heures, vérifiez bien que votre partenaire n'a pas eu la même idée que vous au même moment. C'est après le clash, histoire que bébé ne se retrouve pas gérer seul le foyer. Elle attend en grimaçant devant un commerce. Bonjour.
Bonjour.
Quel est votre prénom, madame?
Marion.
Marion, vous avez quel âge?
70 ans.
Qu'est-ce que vous faites aujourd'hui, là?
Je vais chez Orange.
C'est quoi, c'est les problèmes de boxe?
Non, de téléphone.
Bon, il m'arrive aussi de sous-traiter les services clients Orange au 3900, ça fait toujours un peu de cash en plus, mais je lui parle du...
Baby clash. Je pense que le couple, déjà, on doit rester un peu solidaire, tenir le coup quand c'est un peu difficile à gérer au tout début. Et puis ensuite, on a évidemment la vie professionnelle.
Il faut être sur tous les fronts, quoi.
Il fallait être sur tous les fronts, probablement plus que maintenant, d'ailleurs. Puisque à l'époque, c'était plus compliqué d'annoncer à son employeur qu'on était enceinte et qu'on allait avoir un bambin.
Lui marche à côté de la poussette qu'il pousse d'une main, son enfant dans l'autre. Je fais connaissance avec ce papa au manteau bleu, au bonnet noir et sa barbe poivre et sel de 3 jours. Vous appelez comment ?
François.
François, vous avez qui dans les bras ?
Jenny, non.
Oh là là.
Qui se demande ce qui se passe.
Qu'est-ce que vous faites tous les deux ce matin ?
On se promène. C'était le programme de la matinée. On attend que maman finisse de faire ce qu'elle a à faire dans Paris, et puis on la retrouve après.
Je lui parle de l'arrivée d'un enfant dans un couple, et l'arrivée de Ninon, il s'en souvient.
Ah, disons que quand elle est arrivée, on n'était pas tout à fait prêts. Voilà. Oh, on était super détendus, quoi.
À l'arrache, un peu, ou...
Non, pas du tout à l'arrache. On était prêts à recevoir Ninon, mais ouais, ce soir-là, on était sortis, quoi. Il y a eu une petite quinzaine de jours d'avance... En gros, on s'était dit, c'est un peu la dernière. Donc ça a été assez épique après d'aller jusqu'à la maternité, en tout cas pour moi.
Vous êtes arrivé un peu pompette.
Et j'étais totalement présent, mais voilà, ouais, c'est ça. Ma femme m'a dit, mets un masque, parce que vraiment, je crois que t'as bu du rhum.
une bonne technique, le masque. Un camouflage côté, Lolo côté. On parle de l'après-accouchement et de l'arrivée de leur enfant dans le quotidien.
Baby clash. Oui, c'est un bouleversement, mais c'est un bouleversement auquel on s'adapte ou auquel on s'adapte pas, quoi. C'est peut-être une question qu'il faudrait aussi poser aux femmes. Disons que moi, en tant qu'homme, j'ai vécu un peu moins de bouleversements d'un point de vue physique, physiologique. J'ai envie de vous dire que de manière totalement triviale pour un homme, la question se pose pas forcément.
Et là, François met le doigt sur quelque chose. Est-ce que les pères qui ne sont pas atteints dans leur chair vivent moins violemment l'arrivée d'un enfant, comme s'ils étaient décalés dans ce chamboulement de vie ? Peut-être. Alors il y a des solutions, le dialogue.
De savoir faire de la place à l'autre, faire de la place à l'enfant, garder un petit peu de soi. Et c'est un équilibre, je dirais, qui est peut-être rare et assez fragile, donc qui s'entretient un peu tous les jours. Ouais, on en discute, mais que ce soit autour de la table, que ce soit en allant boire un verre, si jamais on a trouvé la nounou ou les grands-parents au moment, on s'envoie un message, ou tout ça, ça se prépare, ça se discute, et c'est ça qui est cool, en fait.
Ne jamais perdre de vue le fait de se retrouver, d'en parler, et traverser non pas en solitaire, mais en solidaire, ce rendez-vous un peu trash qu'on appelle le baby clash.
Oh, les belles rimes.
Pas mal. Enfin, trash clash, c'est toujours pas une rime riche, hein, Manon. Donc,
c'est
il fatigue un peu le Rimbaud.
Moi, je l'encourage.
Vous êtes dur.
Peut-on échapper au syndrome du baby clash ? On en parle cet après-midi avec vous, Anna Roy. Je rappelle votre livre, Baby Clash, devenir parent sans s'étriper, paru chez Larousse. J'ai envie de dire quelque chose qui va pas aller dans votre sens, peut-être, mais évidemment qu'il faut lire des livres, il faut se renseigner, il faut écouter notre émission aujourd'hui. Mais quelque part, moi, j'ai des exemples autour de moi de parents complètement à l'ouest, complètement zen, qui se sont pas du tout préparés. Et je me demande si, et j'ai l'impression que leurs enfants du coup sont pas du tout stressés et ils ont peut-être moins de problèmes que les nôtres. Est-ce que l'impréparation peut pas avoir du bon aussi?
Alors dans ma pratique, moi qui en ai vu des centaines et des centaines, voire des milliers même, non.
D'accord.
Que clairement non. Il y a des gens qui vont effectivement une main devant, une main derrière dans l'aventure de la parentalité. Peut tenir un temps. Et puis ça tient moins bien un autre temps. Non, ça je crois qu'il faut pas se dire. L'excès d'informations ne nuit jamais. Le tout c'est de trouver les bonnes informations. Mais ça c'est.
Il faut pas se noyer dans l'information.
Non, c'est-à-dire qu'il faut aller chercher. Effectivement, il y a tellement d'informations qu'il faut aller chercher les bonnes infos. Mais c'est, je crois que vous êtes une radio comme ça. Quand on a les bonnes informations, ça va toujours mieux.
Exactement.
Non mais c'est vrai. Non mais oui.
On va en faire un slogan. Ça. Jeanne nous dit je sors marcher 2 heures, ça fait du bien. Est-ce que les petits apparts, le mouvement perpétuel, le bruit aussi. Est-ce que le fait de vivre dans des grandes villes en rajoute une couche
à ça, j'en suis persuadée.
Non, c'est pas le même baby clash à la campagne.
C'est-à-dire que le manque d'espace, les conditions de vie difficiles, mais c'est pas que ville-campagne, c'est pas ça l'opposition, mais oui, les conditions d'existence qui sont difficiles en rajoutent une couche. Et d'ailleurs, moi, je tiens à dire, il y a des gens qui ont les moyens, par exemple, de se payer du temps domestique et parental, c'est-à-dire de recruter des nounous, de recruter des femmes de ménage, etc., etc. Pour eux, c'est évidemment beaucoup plus simple, beaucoup moins lourd sur leurs épaules. Donc oui, bien sûr qu'il y a conditions d'existence qui facilitent ou qui...
Ça dure jusqu'à quel âge, le baby clash ?
Moi, je dis c'est jusqu'aux 6 ans du dernier enfant.
Du dernier enfant ?
Oui, c'est-à-dire que si...
Oui. Ouais. Donc si le premier...
Ah, il peut survenir n'importe quand jusqu'aux 6 ans du dernier enfant, ouais.
D'accord.
Eh bien, c'est bien.
Et ben, je crois que okay. Manon et Quentin viennent de prendre la décision officielle de ne pas procréer. Hein, le réarmement démographique,
chacun
c'est pas
de notre côté, encore une fois, on précise. Hein, merci.
Pas non, non, mais attendez, il y a quelque chose quand même qu'on n'a pas dit, c'est qu'avoir un enfant avec quelqu'un, c'est un truc de malade.
C'est merveilleux.
Non, mais c'est l'amour, un truc complètement imaginaire qui est concret, qui se fait chair et os quand même. Donc, non.
Oui, le but de votre livre, c'est pas de dire au couple, arrêtez de faire des enfants.
Je veux dire, vous regardez votre enfant, vous dites, ah ouais, ça c'est notre amour. Genre, le truc, le concept qui est en vrai, ah, c'est pas mal quand même.
Alors, qu'est-ce que vous dites aux parents qui nous écoutent peut-être et qui sont au bord de la séparation parce qu'ils sont rincés. Est-ce que leur dites séparez-vous parce qu'il vaut mieux effectivement pour l'enfant que il y ait chacun de ses parents qui soit mieux individuellement chacun de son côté ou non? Tenez le coup parce que c'est qu'une période. Alors, ça va passer ensuite votre enfant.
Je dis non, on fait le point avec quelqu'un qui est extérieur
à vous. Oui,
voilà, et on fait le point. Et de toute façon, se faire accompagner, même quand on prend la décision de se séparer, c'est hyper important d'être accompagné à la fois pour soi et pour l'enfant. Donc de toute façon, on se fait accompagner. On trouve avec quelqu'un avec qui on a confiance. Et surtout, souvent les couples, ils voient quelqu'un, disent non, cette personne elle est nulle. Mmh. Et ben, il faut réessayer jusqu'à ce que trouver la bonne personne qui nous correspond à nous. Quoi.
On ne se sépare pas quand on a un enfant en bas âge. C'est ça que vous nous dites. On ne se sépare pas sans avis extérieur.
Sauf situation grave et tout, on s'est bien compris.
Ah oui, bien sûr. Non, mais quand on est dans notre cadre du
bébé
classique.
Mais bien sûr, vraiment, ça vaut le coup d'avoir un regard extérieur, parce que souvent, les gens s'aperçoivent, ils disent « Ah ouais, en fait, c'est pas grave. » Ou on les fait dormir deux jours, ils disent « Ah, mais Anna, on s'aime toujours. » Bah, sans blague. C'est juste que tu dors pas, en fait.
Et oui, voilà.
Tu dors pas, tu manges pas, et ben oui, tu as envie de te séparer de l'autre. Mais en dormant et en mangeant, ça revient.
Anna Roy, selon une étude de l'IFOP publiée en 2022, 16% des couples se séparent dans les premiers mois suivant la naissance d'un bébé. Comment on en vient à cette extrémité ?
Oui, alors là, il y a aussi toutes les causes graves aussi. Hein. Il y a beaucoup de coparents qui quittent le nid, qui partent. Il y a des situations de violence conjugale, etc. Donc, il y a, à mon avis, cette part-là. Mm-hmm. Et puis, il y a aussi la part de baby clash, de gens qui n'en peuvent plus, qui se rendent compte qu'ils ont fait un enfant avec pas la bonne personne, qui sont trop fatigués, qui n'arrivent plus à communiquer, etc. Il y a beaucoup de gens qui... Voilà, le problème, c'est que là, derrière ces 16%, il y a différentes situations, quoi.
Mais dans ce que vous dites, le petit problème, c'est que c'est difficile à voir quand on est le nez dans le guidon, ce qui relève du fait qu'on s'est trompé de partenaire ou ce qui relève du fait qu'on est fatigué, par exemple.
Exactement. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on peut pas bien raisonner quand on dort pas. Ça, vraiment, j'insiste. C'est comme il y a beaucoup de gens qui n'ont plus envie de faire l'amour juste parce qu'ils ne dorment pas. Ils disent, non, ça y est, je ne le désire plus parce qu'il est devenu un père ou parce qu'il est devenu une mère.
Juste
tu dors pas, en fait. Dors et puis la libido va revenir. Donc, en fait, vraiment, la fatigue, les gens ne se rendent pas compte à quel point ça a des répercussions sur eux. Vraiment.
Alors, il n'est pas question de se forcer à rester avec quelqu'un, mais ce que vous nous dites, c'est qu'il faut quand même un petit peu prendre sur soi, se dire qu'il y aura des jours meilleurs, que le jeu en vaut la chandelle quand même.
En fait, c'est vraiment de prendre de la hauteur. Et prendre de la hauteur, pour ça, il faut dormir. Donc, il faut trouver une solution pour dormir, au moins de temps en temps, de façon à pouvoir redialoguer.
Les grands-parents.
Par exemple. Oui. Non, mais grands-parents, amis, enfin, il y a plein de gens qui peuvent garder les enfants.
Mais quand on dit tous d'ailleurs, la bonne personne, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'avant, il faut parler avec son partenaire pour savoir quelle méthode d'éducation on a envie de donner à notre enfant, comment, je sais pas, on le met à la crèche, on prend une nounou. Enfin, c'est des conversations qu'il faut avoir avant, en fait, d'avoir un projet bébé.
C'est effectivement extrêmement vieux jeu de dire ça, mais je l'assume complètement. Je pense qu'il faut aborder toutes ces questions, évidemment, avant de se mettre, enfin, au moment où on se met en couple, et surtout quand on envisage de faire un enfant, parce qu'il y a vraiment des gens qui ont des visions radicalement opposé de l'existence.
Et on le découvre après.
Enfin, il y a des gens qui disent non, mais c'est tout bête, mais école privée, école publique, éducation machin ou éducation ceci. Enfin, il y a 10 milliards de questions qui peuvent en fait poser de grosses, grosses difficultés.
Mais après, c'est plus facile aussi d'en parler quand l'enfant n'est pas là. Donc, on peut prendre des décisions avant, mais qui vont changer.
Non, parce que déjà, il peut y avoir des tensions. On se dit
ça peut nous alerter.
Et puis, même sur des sujets plus globaux, de politique, d'organisation de la société, enfin, vraiment, ça permet quand même d'avoir une vision globale de l'être humain avec qui on souhaite faire un enfant. Parce que des fois, je vous assure, il y a vraiment des gens, ils aimaient faire l'amour avec quelqu'un, c'est super, mais des fois, ça suffit pas toujours, quoi.
Il faut se méfier de nos phéromones.
Parfois.
Ouais. J'ai Cyril, notre rédacteur en chef, qui me parle beaucoup dans l'oreillette en régie, et il aimerait qu'on s'arrête sur la sexualité, chapitre 7. Oui. C'est celui qu'il a le plus lu, qu'il a beaucoup stabiloté. Parce qu'on n'est plus raccord sur la sexualité ou l'histoire de l'épisiotomie, qu'est-ce qui crée cette discordance sur ce qu'on aimait avant et ce qu'on n'aime plus après, que l'autre ne comprend pas nécessairement ? Qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui se joue à ce moment ?
Non, mais alors déjà, il y a beaucoup de gens, quand on les interroge, ils s'imaginent qu'avant la grossesse, ils avaient une sexualité de folie.
Ah, voilà,
ils disent, c'est extraordinaire, nanana. Et aujourd'hui, c'est nul. Alors moi, je les interroge. je leur dis attendez, hier c'était comment? Déjà, il faut bien être lucide là-dessus. Et puis après, c'est vrai qu'avec l'arrivée de l'enfant, avec la problématique de l'espace, du manque de sommeil, des douleurs éventuelles, il y a plein de choses qui font que ça peut compliquer la sexualité. Et donc là, il faut essayer de résoudre les problèmes, ça c'est évident. On dort pas assez, il faut dormir. On a des douleurs sexuelles, on va consulter une sage-femme, un médecin qui est spécialiste des douleurs vulvaires et périnéales jusqu'à trouver la solution de la douleur. Enfin, il y a toujours des solutions. Vraiment, la sexualité, faut pas se dire « Ah, ça y est, c'est foutu ». Au contraire même, il y a des gens, après avoir eu un enfant, qui ont une sexualité bien plus épanouie, parce que, je sais pas, il y a des trucs qui sautent, enfin, et ça peut être au contraire génial. Donc vraiment, souvent, c'est des problèmes très concrets, très bêtes. En tout cas, ne pas se dire « Je ne te désire plus parce que tu es devenu père ou mère », je pense que c'est juste parce que tu en dors pas, quoi. Ça, vraiment, les gens vont chercher des concepts, là encore, alors que juste, ils dorment pas de la nuit, quoi.
C'est quoi le sujet épisiotomie?
Bah, l'épisiotomie, c'est typique, c'est une épisiotomie, donc c'est une incision qu'on fait qui peut voilà couper le peau, les vagins, les muscles, etc. Mais le déchirure, c'est pareil. Il se trouve qu'on peut avoir des douleurs résiduelles après un accouchement, et du coup, bah, il faut régler ces problèmes de douleurs.
Au bout de combien de temps on doit s'inquiéter? Au bout de combien de mois, si, après l'accouchement, si on n'a pas refait l'amour, si on n'arrive pas à refaire l'amour?
Alors moi, là, je peux vous donner simplement des statistiques. Il faut se dire qu'à 3 mois, il y a un couple sur deux qui a refait l'amour. Et il faut attendre un an pour que 100% des couples, enfin 97% des couples aient refait l'amour. Ouais. Et il y en a, ça va être le lendemain de l'accouchement. Enfin, il n'y a pas de...
Le lendemain de l'accouchement, ça vous
dit? Oui, en maternité.
C'est pas dangereux?
Qui s'est bien passé?
Non, pas du tout, moi.
Qui s'est bien passé?
En maternité, ça m'est déjà arrivé de retrouver des... Enfin, de rentrer dans une chambre de maternité, c'est de retrouver les gens en train de faire l'amour dans le lit.
Oui, mais l'accouchement s'est bien passé.
Bien sûr. Non, mais ça, évidemment, hein, c'est pas sûr. Enfin, là, pour le coup, oui.
Il n'y a pas eu de césarienne, non, là, forcément, dans ce cas-là.
Mais donc, voilà, donner les chiffres, parce que souvent, les gens, ils s'imaginent qu'au bout de 4 semaines, on va avoir une sexualité débridée tout de suite. Bah,
ça met une pression, ça met une pression aussi, ouais.
Voilà, il faut savoir les chiffres qui sont quand même assez rassurants.
Anna, vous recommandez aussi de faire un pacte pour rester ensemble jusqu'aux 3 ans de l'enfant, comme une sorte de délai pour évaluer la relation?
Oui, toujours à condition qu'il n'y ait pas de choses graves.
Non, bien
derrière.
Sûr, on voilà. retire de l'équation non, les choses graves, évidemment, violence conjugale,
parce que je veux
etc.
Pas, voilà.
Ça, évidemment, on s'élève tout de suite, mais dans le cas d'un baby clash classique, on c'est bien de se fixer.
Et en fait, tant qu'on ne dort pas, tant qu'on ne s'est pas réparti équitablement les trucs dans la maison, tant que les choses ne se sont pas stabilisées, souvent c'est idiot, parce qu'en fait, c'est des trucs qui passent. Le problème, c'est que quand on ne dort pas, on imagine que ça va durer comme ça toute la vie. Or non, en fait, on va redormir. On imagine que l'accumulation des tâches, ça va durer toute la vie. Bah non, en fait.